Voici une question dont la réponse va sûrement intéresser tous nos auditeurs. Y a-t-il des erreurs dans la Bible? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et véridique aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Quelle belle leçon on va recevoir venant du grand livre de Dieu aujourd'hui. Je crois que vous serez d'accord avec moi, simplement en entendant les questions qu'on va poser à Dieu aujourd'hui. Alors les voici. Quelle est la différence entre les souillures de la chair et celles de l'esprit? Quand une église fait une collecte pour un projet spécifique, est-elle en droit d'utiliser les fonds pour d'autres projets? Quand la Bible décrit un homme de Dieu qui fait des erreurs, est-ce que ça signifie qu'il y a des erreurs dans la Bible? Devons-nous demander pardon à quelqu'un pour un tort que nous lui avons fait il y a longtemps? De quelle manière est-ce qu'on peut consoler un frère dans la foi? Que signifie le mot « repentance »? Demeurez avec nous, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir tout ce bon enseignement. Prions. Oui, Seigneur, tu nous donnes du bon enseignement jour après jour. Merci pour cette abondance de ta parole qui vient de toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci d'être si bon envers nous. Enseigne-nous aujourd'hui, dispose nos cœurs, que ta parole puisse pénétrer profondément en nous. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu nous demande de nous séparer du monde et de son idolâtrie, afin qu'il puisse avoir une relation intime avec nous. Si nous refusons de nous purifier des souillures du monde, le Seigneur devra premièrement nous châtier avant d'établir une relation intime avec nous. Nous avons aussi vu que Dieu interdit des alliances et des ententes permanentes avec le monde. Ce type d'alliance peut être un mariage, un partenariat dans une entreprise, enseigné dans une école de théologie libérale. Dieu interdit les alliances avec les non-croyants. Mais il n'interdit pas une collaboration temporaire avec un chrétien qui fait des choses d'une façon différente de nous, d'un chrétien dont nous n'approuvons pas nécessairement les méthodes de travail. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. De quelle promesse est-ce que Paul parle? Il parle de la promesse d'être un père pour nous, si nous nous séparons du monde et si nous lui obéissons. Quelle est la différence entre les souillures de la chair et celles de l'esprit? Paul nous dit de nous purifier de toute souillure, celle de la chair et celle de l'esprit. Tout péché est une souillure aux yeux de Dieu, mais quelle est la différence entre les souillures de la chair et celles de l'esprit? Les souillures de la chair sont les péchés que nous commettons dans notre corps. Ce sont la luxure, les désirs incontrôlables, l'ivrognerie, la gloutonnerie, la licence. Ce sont les péchés de la chair. Ce sont les choses qui nous souillent. Nous devons être conscients du fait que notre société contemporaine considère ces choses comme étant respectables. Pourtant, nous lisons dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'abus de l'alcool est un exemple de souillure de la chair. Un exemple de ceci est l'attitude envers l'alcool. La plupart des gens affirment qu'il n'y a rien de mal avec l'alcool. D'ailleurs, les médias font la promotion du produit. Une annonce disait ceci. La caractéristique d'un homme mature, sensible et qui réussit est de savoir boire des cocktails. C'est toute une jolie propagande. Il y en a qui savent laver les cerveaux. Les fabricants et les distributeurs de boissons alcoolisées dépensent énormément en publicité. Mais une petite minute, chers amis. D'où pensez-vous provient la citation de l'annonce que je viens de vous lire? Elle ne vient pas d'une distillerie. Elle vient d'une organisation qui aide les alcooliques. L'annonce disait aussi, « Il y a des personnes qui ne savent simplement pas boire. » Sur ce point, nous ne pouvons qu'être d'accord. Il y a des milliers d'alcooliques, et c'est nous, les contribuables, qui défrayons les coûts des institutions médicales qui les traitent. Qu'en dit la Bible? Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Habacuc, chapitre 2, verset 15. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Proverbe 23, verset 31. Si nous faisons un usage modéré de l'alcool, nous devons faire très attention de ne pas être une occasion de chute pour un autre. L'abus de l'alcool est clairement interdit. La prolifération du porno est un exemple de souillure de la chair. Une autre illustration de souillure de la chair est la prolifération du porno. Les revues et les films pornographiques sont très disponibles, et maintenant, c'est encore plus facile de devenir dépendant de la pornographie à cause de l'Internet. On peut s'y adonner en privé, à l'abri des regards, mes amis. Si vous êtes pour vous adonner à une souillure de la chair quelconque, Dieu ne pourra pas entrer en relation intime avec vous, et il n'agira pas envers vous comme le Père qu'il désire être pour vous, même si vous êtes son Fils. Maintenant, examinons ce que sont les souillures de l'esprit. Bien, commençons par la médisance, chers amis. De nombreux chrétiens disent des choses vicieuses au sujet de leurs frères dans la foi. De nombreuses personnes ne commettraient pas un meurtre, une agression, un vol armé ou une fraude. Cependant, leur langue de vipère est aussi efficace qu'un poignard. De nombreux chrétiens sèment la médisance dans nos églises. Des exemples des souillures de l'esprit? De plus, il y a des péchés de l'esprit qui sont plus faciles à cacher, tels la vanité, l'orgueil, l'arrogance, l'incrédulité, la convoitise, la jalousie. De nombreux chrétiens fonctionnent selon une liste d'interdits. Ne bois pas, ne fume pas, ne joue pas aux cartes, ne va pas au cinéma, etc. Aucun d'entre eux ne voudrait être vu avec une cigarette à la bouche. Cependant, les paroles qui sortent de leur bouche sont plus dévastatrices qu'une arme. Ce sont là les souillures de l'esprit. Maintenant, Paul dit que nous devrions nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux présente la chose ainsi. « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux, chapitre 12, versets 13 et 14. « Le Seigneur Jésus est ma justice. Il est ma sainteté. Cependant, un gouffre sépare ma vie de ses perfections. » Dieu dit qu'il ne devrait pas y avoir une si grande distance entre la sainteté de Dieu et nous. Dieu veut que nous soyons saints, parce qu'il est saint. Écoutez l'exhortation de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Poursuivons notre lecture de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Un chrétien ne devrait pas faire de tort à qui que ce soit. Paul assure les Corinthiens qu'il n'a corrompu personne et qu'il n'a trompé personne. Il n'est pas venu les voir afin de faire une collecte pour toutes sortes de projets. J'aimerais que plusieurs chrétiens puissent dire la même chose. Je pense que certains conseils d'Église n'agissent pas correctement. Je pense que si une personne fait un don désigné pour un projet spécifique, le conseil doit s'assurer que l'argent parvienne à la bonne destination. Le conseil n'a pas la liberté de mettre l'argent dans le fonds général ou d'utiliser l'argent pour rembourser la dette de l'Église. Paul pouvait assurer les lecteurs qu'il n'avait lésé personne, corrompu personne, ni fraudé qui que ce soit. Verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Paul aimait les Corinthiens, mais il avait leur bien à cœur. Verset 4. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Maintenant, Paul leur dit qu'il est consolé et rempli de joie à leur sujet. Il explique la raison de son état d'âme, versets 5 à 9. Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par mes lettres, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Un rappel du contexte dans lequel Paul rédige cette lettre va nous aider à apprécier ces versets. Dans sa première épître, Paul avait dû réprimander les Corinthiens. Il leur avait dit qu'il devait leur parler comme à des hommes charnels et comme à des enfants. Il a dénoncé le cas d'immoralité grossière parmi eux. Il a demandé à l'Église de corriger la situation. L'Église de Corinthe a suivi les conseils de Paul. Lorsque Tite est arrivé à Philippe afin de rejoindre Paul, il a rapporté à Paul que l'Église de Corinthe avait confronté et mis sous discipline l'homme coupable de conduite immorale. De plus, l'homme s'était repenti de ses écarts de conduite. Maintenant, dans cette deuxième épître, Paul recommande aux Corinthiens de reprendre cet homme parmi eux, de lui permettre de revenir à l'Église. Paul ne voulait pas que cet homme soit accablé outre mesure. Il devait être réadmis dans les rangs de l'Église. Après avoir quitté Éphèse, Paul s'était rendu à Troas, et là, il a attendu Tite, qui n'arrivait pas. Il a commencé à se questionner sur la manière d'avoir agi dans cette affaire. Peut-être n'aurait-il pas dû écrire une lettre aussi sévère à l'Église de Corinthe. Il a poursuivi son voyage jusqu'à Philippe, et c'est là que Tite l'a rejoint, et qu'il lui a apporté des bonnes nouvelles de Corinthe. Peut-être l'un d'entre vous a-t-il envie de me dire, « Je pensais que les Écritures étaient entièrement et verbalement inspirées, et que Paul écrivait sous l'inspiration de l'Esprit, lorsqu'il a écrit aux Corinthiens. » C'est exact. Nous sommes devant un texte inspiré par Dieu. Je crois cela de tout mon cœur. Alors, pourquoi Paul remet-il en question la sévérité de sa lettre? C'est parce que Paul était un être humain. Dieu a permis que Paul s'exprime ainsi, afin que nous percevions combien humain était Paul. Ceci nous montre un Paul tendre, aimable et doux, afin que nous suivions son exemple. C'est toute une leçon pour nous. Après avoir reçu les bonnes nouvelles de Corinthe, Paul a pu écrire « Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » Chers amis, avez-vous demandé pardon à quelqu'un pour quelque chose fait autrefois? Il est possible qu'en entendant ces paroles, que l'un d'entre vous communique avec une personne qui l'a blessé il y a plusieurs années. Si c'est vous, dites-lui que vous êtes désolé et que vous désirez réparer les torts. Savez-vous ce que cela fera? Cette personne sera probablement heureuse. C'est le genre de choses que nous devrions faire plus souvent. Paul ouvre son cœur en écrivant. Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au-dedans. Chers amis, ceci est si personnel que je me demande si nous ne commettons pas une indiscrétion en le lisant. Mais Dieu utilisa un homme pour consoler Paul. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Que pourriez-vous faire pour encourager un frère dans la foi? Vous pourriez consoler un frère dans la foi en l'aidant, mes amis. Quand, pour la dernière fois, avez-vous dit à votre pasteur, « Mon frère, je prie pour toi. Je remarque que tu travailles fort et que tu tiens ferme pour la cause de Dieu, et je veux que tu saches que je suis avec toi de tout mon cœur. » Il apprécierait cela. Paul enchaîne en disant, « Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Autrement dit, vous avez consolé Tite et Tite m'a consolé. » Lorsque nous apprenons que quelqu'un a reçu le Seigneur Jésus comme sauveur en écoutant nos émissions, ou que quelqu'un a été aidé dans sa vie spirituelle, cela nous réjouit et c'est un encouragement pour nous. Les Corinthiens avaient dit de bonnes choses au sujet de Paul, mes amis. N'hésitez pas à dire de bonnes choses des autres. Votre langue ne se détachera pas de votre bouche si vous faites cela. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Observez que la repentance et les larmes ne sont pas la même chose. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Chers amis, qu'est-ce que la repentance? Ce verset démontre ce qu'est la repentance. La repentance comprend un changement d'idée, de façon de voir les choses. La seule repentance que Dieu exige des personnes perdues, c'est qu'elles croient. Croient au Seigneur Jésus-Christ. Qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un croit? Cette personne ne voit plus les choses du même œil. Elle se détourne d'une chose pour aller vers quelqu'un. Écoutez ce que Paul a écrit aux Thessaloniciens. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1. Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. C'était tout un revirement dans leur perception des choses, tout un changement d'idée. Comment s'est-il produit? Ils se sont tournés vers le Seigneur Jésus. Lorsque Paul est arrivé à Thessalonique, il n'a pas prêché contre l'idolâtrie, mais il a prêché Christ crucifié. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Cependant, ils étaient des idolâtres. Donc, que s'est-il produit alors qu'ils se sont virés ou tournés vers le Seigneur Jésus par la foi? Ils se sont détournés des idoles. Et ce retournement est la repentance. C'est ceci, la repentance, par laquelle doivent passer les non-convertis. Cette repentance mène au salut. Je ne sais pas si Dieu veut que nous mettions l'accent sur la repentance des non-sauvés. Il veut que nous mettions l'accent sur la personne de Jésus-Christ. Lorsque les gens entendent et répondent à l'appel du Seigneur, ils rejettent leur incrédulité d'autrefois. Mais dans notre texte d'aujourd'hui, Dieu met l'accent sur la repentance des croyants lorsqu'ils ne marchent pas dans les voies de Dieu. s'ils vivent dans le péché. Pour eux aussi, il doit y avoir une repentance. Certaines personnes ne font que verser des larmes, ce qui n'est pas une indication d'une vraie repentance. C'est la tristesse du monde qui conduit où? À la mort, dit le texte. La vraie repentance est une tristesse selon Dieu, celle qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire une repentance sans aucun regret. La repentance des Corinthiens fut réelle. Versets 11 à 13. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produite en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Paul félicite les Corinthiens parce qu'ils se sont véritablement repentis. Versets 14 à 16. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais, comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous, et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous. Paul a ouvert son cœur aux Corinthiens, et il a partagé ses sentiments avec eux. Il est heureux et rempli de joie, et il fut consolé. C'est ainsi que Dieu a consolé le cœur de Paul. Par les autres, dans la foi, et par leur témoignage, par leur partage, leur vécu avec Dieu. Le père du pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, lui racontait une anecdote qui illustre la repentance. Écoutez bien. Il y avait un bateau à vapeur qui circulait sur le Mississippi. Sa chaudière n'était pas puissante, et le bateau avait un gros sifflet actionné par la vapeur de l'engin. Lorsque le bateau naviguait à l'encontre du courant et que le sifflet était actionné, le bateau reculait, car la pression de la chaudière n'était plus assez forte pour faire avancer le bateau. De nombreuses personnes ont de gros sifflets et des petites chaudières. Elles versent beaucoup de larmes et donnent tout un spectacle, mais il n'y a pas de véritable repentance. Elles versent des larmes, mais elles continuent dans la mauvaise direction. Cher ami, qu'en est-il de toi? Lorsque Dieu te montre un péché dans ta vie, tu dois t'en repentir, c'est-à-dire le confesser et l'abandonner, et non seulement pleurer, mais agir en conséquence selon ce que Dieu te montre, afin de pouvoir poursuivre la voie de la sanctification. La Bible nous encourage de marcher de sanctification en sanctification. Il y a un progrès, il y a place à progresser dans notre sanctification. Tu es croyant? Tu crois en Dieu? Tu crois en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Tu crois en la parole de Dieu? Alors il est possible pour toi de vaincre le mal, d'y remporter la victoire, chers amis. En Jésus, nous sommes tous vainqueurs. Chers amis, prochaine émission, 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 1 à 7.
Oh, merci beaucoup, Régent. L'enseignement qu'on vient de recevoir a été tellement intéressant que j'ai de la difficulté à me brancher sur un sujet en particulier. Mais une chose que je sais, c'est que je veux retenir ces bonnes instructions que je viens de recevoir de mon Dieu par la bouche de son serviteur. Mes amis, j'ai bien aimé ce que Régent a dit concernant le fait que l'apôtre Paul avait probablement fait une erreur en envoyant une lettre bien sévère aux Corinthiens, et je crois qu'on a pu comprendre que des hommes de Dieu ont fait des erreurs qui ont été rapportées dans la Bible, oui. mais que nous sommes devant un texte inspiré de Dieu. Paul remettait en question sa sévérité, surtout la sévérité de sa lettre à ce moment-là. Il était humain, mais il était aussi tendre, aimable et doux, afin qu'on puisse suivre son exemple. Mes frères, mes sœurs, ceci a été écrit pour notre instruction. Ça me fait penser à un pasteur que je connais. Cet homme est véritablement humble. Il est un modèle d'humilité pour nous. Et quand il a fait la moindre erreur et que ça concerne une personne ou des personnes, il appelle ou rencontre ces personnes. Il leur demande pardon. Je ne suis pas certaine que tous les croyants en font autant. Je sais que je le fais davantage depuis que j'ai vu cet homme agir ainsi. Une autre chose que Régent a mentionnée, c'est qu'il peut nous arriver parfois de nous rappeler qu'on a fait du tort à quelqu'un dans le passé. On a peut-être blessé une personne. Peut-être que ça a fait bien longtemps que c'est arrivé. Et il nous a encouragés à contacter cette personne pour lui demander pardon. Il a même dit que cette personne serait probablement très heureuse qu'on la contacte pour réparer les torts. Eh bien, ceci m'est arrivé il y a peut-être environ 2 ans. Je me suis souvenu d'un homme durant la période où j'étais dans le domaine artistique et que je vivais à Montréal. Un homme qui avait mal agi envers l'homme que je fréquentais à l'époque. Et un jour, alors que j'étais dans un bureau où il y avait beaucoup de gens qu'on connaissait, je me suis mise à lui faire des reproches concernant ce qu'il avait fait à mon copain. Et je m'assurais de parler assez fort pour que tout le monde comprenne ce que je lui disais. Il était tellement surpris, peut-être même en état de choc, qu'il n'a rien dit. Et j'ai quitté le bureau. Je dois vous dire que je ne connaissais pas le Seigneur à l'époque. Eh bien, comme je vous disais, il y a environ 2 ans, je me suis rappelé cette chose et j'ai appelé cet homme. Laissez-moi vous dire que j'étais très mal à l'aise de le faire. Je m'y suis préparé dans la prière pendant plusieurs semaines avant que Dieu me donne la force de le faire et aussi de le faire avec une bonne attitude, une attitude d'humilité, de douceur, d'amour. Et après lui avoir demandé pardon, il était évident par le ton de sa voix qu'il était très heureux que je l'aie appelé. Et ce qui est peut-être un peu comique, c'est qu'il m'a dit qu'il ne se souvenait même pas du mal que je lui avais fait. Et il a ajouté que s'il venait dans la ville où j'habite, il me téléphonerait pour qu'on se rencontre. Alors c'est bon de faire ça, de réparer les torts. Et aussi, mes amis, j'ai beaucoup aimé ce que Régent nous a dit concernant ce qu'on peut faire pour encourager notre pasteur. Je crois que c'est important d'encourager tous nos frères en la foi, mais c'est d'autant plus important de le faire pour notre pasteur, puisque la Bible nous exhorte à avoir un double honneur envers ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Alors, encourageons les hommes de Dieu et marchons ensemble.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain!
Oui!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.